Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotop.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis sur RDWA, sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Bienvenue dans une émission Biotop consacrée au centre de vacances Couleur Nature à Luz-la-Croix-Haute, qui n'a pas attendu la mode bio pour se lancer il y a un bout de temps dans un certain nombre de démarches respectant la belle nature montagnière, les environnants, et ayant un projet éducatif autour de l'environnement auprès de tous les adhérents qui viennent les voir. Vincent Marquier, son directeur, est en face de moi. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Donc, on pourrait commencer par faire un petit historique de Couleur Nature. Depuis quand elle est née?
Dans les années 60, les habitants de Luz-la-Croix-Haute-la-Jarjade, donc la Jarjade est un des 22 hameaux habités aujourd'hui de Luz-la-Croix-Haute, ont eu le désir d'avoir un centre de vacances là où on est. Et donc, ils ont fait appel à la Fédération des œuvres laïques de la Drôme pour ce projet. Et donc, depuis les années 60, un bâtiment existe ici, un peu perdu au milieu de la montagne et de sa forêt. Donc, ça a été construit. Et donc, les années ont passé. Et en 98, ce centre a été plus trop adapté à l'accueil des loisirs, au niveau des réglementations pareil, et au niveau du coup de tous les publics qu'on accueille ici. Donc, on a fait des travaux, on a un peu agrandi le site. Et on a rendu du coup cet espace accessible à tous, aux personnes porteurs de handicap, comme aux personnes âgées, comme aux enfants à bas âge, et voilà.
Alors tu parlais de la folle, est-ce que la folle entend porter un message quelconque ?
Oui, la FOL du coup fait partie de la Ligue de l'enseignement au niveau national, donc on a un peu le même projet, beaucoup de militance. Du coup oui, la Fédération de l'œuvre laïque fait partie de la Ligue de l'enseignement, au niveau national. Donc on est une grande maison au niveau éducatif, militance et pédagogique. On parle tous de la même chose. Donc nous, dans notre milieu montagnard, on a beaucoup, beaucoup de choses à montrer au niveau de respect de la nature, respect de notre environnement et puis respect évidemment de tous les gens, les adhérents qui viennent nous voir chaque mois de l'année.
Oui, mais la militance de la FOL, ça se porte sur des points particuliers ?
Tout dépend. La militance, ça se passe beaucoup au niveau de du respect de l'environnement. Donc nous, vu qu'on est en montagne, on parle de ça. La FOL se trouve aussi au milieu, à côté de la mer, à côté des plaines, en pleine forêt auvergnate. Du coup, chacun a ses projets. Après, on parle de la même chose dans le sens où notre grande mission, c'est de montrer à nos adhérents qu'on peut vivre ensemble. C'est le vivre ensemble dans notre société que l'on perd petit à petit en voyant. Au niveau national, il y a de moins en moins de personnes qui votent. Il y a des manifestations par rapport au mariage pour tous. Donc il y a beaucoup de manifestations par rapport à ça. On a l'impression que les gens ne s'entendent plus, les gens ne s'écoutent plus. Et notre grand projet, c'est ça, c'est de faire vivre les gens ensemble et de leur montrer que c'est tellement agréable et tellement chouette de vivre des expériences à plusieurs.
Alors quels sont les publics qui fréquentent ce centre ?
On vit beaucoup avec des publics scolaires, donc des enseignants qui viennent avec des projets pédagogiques, donc agréés par l'éducation nationale de leur département. Et du coup, nous, on anime autour de l'environnement, autour de notre environnement montagnard en hiver, en printemps, en été. Enfin, on a des vraies saisons pendant toute l'année. Et puis ensuite, on a des familles, des groupes qui viennent les week-ends ou pendant les séjours famille pendant une semaine, en février ou pendant le jour de l'an. Donc là, pareil, on a notre projet à nous. Pour ces familles, c'est de leur faire découvrir et de leur faire apprécier notre milieu. Notre projet aussi, c'est qu'ils respectent ce milieu et qu'ils apprennent à l'aimer, quoi. Et voilà, et notre dernier public, c'est les colonies de vacances, donc public enfance, pareil. Donc là, c'est plus pendant les colos, les vacances scolaires, où du coup, on apprend aux enfants à aimer notre milieu, pareil, et par différentes manières, qui sont des manières ludiques et autour du jeu, et voilà.
Justement, alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous préciser comment vous arrivez à faire de l'éducation sur l'environnement avec soit des classes découvertes, soit dans des colonies de vacances ? Comment ça se passe ?
Au niveau des classes de découverte, on a des animateurs professionnels qui viennent pour s'occuper de tous les groupes qui viennent ici. Leur mission pendant toutes les journées, c'est de sortir avec les enfants par rapport au projet éducatif, du coup, le projet de l'enseignant, vont par exemple intervenir sur la faune qu'on a ici, la flore qui est assez variée aussi ici. Enfin, on a beaucoup, au niveau naturel, on est bien verni. Au niveau aussi de faire découvrir aux enfants pourquoi est-ce qu'on trouve des fossiles d'animaux marins qu'on trouve au fond des océans, tout en haut des montagnes. Voilà, il va falloir faire découvrir un peu ce qui s'est passé ces derniers siècles et pour leur faire découvrir ce milieu, plus qu'ils marchent en regardant par terre, mais en regardant en l'air, en regardant les traces d'animaux, en regardant tout ce milieu, quoi.
Et ça fonctionne ? En général, le message passe, les enfants sont contents, ils adhèrent ?
Les enfants sont contents, ils adhèrent. Au début, comme toute expérience humaine, hein, c'est au début on ne connaît pas, du coup on se méfie, on ne connaît pas non plus les animateurs qui nous parlent, qui nous demandent de faire de se balader en regardant différentes éléments naturels. Mais n'empêche que petit à petit, eh ben, les enfants apprennent à du coup ouvrir les yeux, découvrir que oh, mais ça en fait c'est une trace animale, c'est pas juste un coup de vent, et pourquoi il a été là, pourquoi il s'est frotté contre cet arbre, pourquoi voilà. Donc on apprend qu'il y a des sangliers ici, il y a des lièvres variables qui peuvent devenir blancs l'hiver, et on apprend aussi que tout plein d'insectes sont plus là l'hiver, pourquoi ils sont plus là l'hiver, pourquoi voilà, questionnement, ils trouvent des réponses, et puis
Alors, une dernière question sur le fonctionnement de la structure. Vous êtes autonome financièrement, ça fonctionne ? Vous arrivez à vous assumer avec vos activités ?
Au niveau financier, on est aidé indirectement par notre département qui aide les enfants à partir en classe de découverte, du coup, voilà, d'hiver comme de printemps comme d'automne. Du coup, on est en quelque sorte aidé par le département. Et sinon, notre fonctionnement est apprécié par tous les adhérents qui viennent nous voir. Et donc, beaucoup de personnes reviennent et puis attirent d'autres personnes. Et du coup, à partir du 27 décembre jusqu'au 18 octobre, on est ouvert, quoi.
Un individu pourrait venir pendant l'été, vous téléphonerez, je pourrais louer un petit lit et comme un hôtel. Non, ça se fait pas, ça
par contre. Non, ça se fait pas dans le sens où déjà l'été, on est ouvert essentiellement aux colonies de vacances. La dernière semaine de août, on ouvre pour les familles. Donc, séjour famille, là, vous pouvez venir individuellement, venir chez nous. C'est tout un séjour qui est animé par nos animateurs. On fait des activités manuelles, des veillées du soir. Voilà, il y a une vraie ambiance familiale qui se crée à chaque fois pendant ces séjours. Mais sinon, en dehors de ces temps-là, et du coup, des week-ends où il y a déjà des groupes, on n'ouvre pas à l'individuel parce qu'on n'est pas un gîte. On a une logique centre de vacances. Donc, du coup, une logique groupe. Et il faut qu'il y ait on ouvre avec du monde, quoi.
Et vous avez parlé d'adhérents, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut être adhérent pour avoir le droit de rentrer ici ?
Voilà, il y a une adhésion, donc comme dans toute association en France, on doit payer une adhésion pour pratiquer les activités que cette association propose. Elle est d'autant plus importante, cette adhésion, parce que une adhésion, c'est une preuve que du coup, cette personne qui vient nous voir a pris conscience de notre projet, au niveau éducatif, au niveau alimentaire, au niveau voilà, de notre accueil ici. Et donc, en ayant pris en compte tout ça, on signe l'adhésion. Il y a ce côté où la personne est adhérente de notre fonctionnement. Et du coup, voilà, enfin, il n'y a pas de surprise, quoi.
Alors, j'ai dit que c'était le dernier point. Ce sera l'avant-dernier, puisque j'ai une dernière petite question. Vous avez combien travaillé sur cette structure ?
Nous sommes 6 salariés permanents, donc pendant toute l'année, qui travaillent ici. Et ensuite, selon les saisons et les périodes, on arrive à embaucher entre 8 et une quinzaine d'animateurs. Et puis, on a 2 cuisiniers, nous avons a priori 3 ou 4 personnes de service voilà, qui travaillent pendant toute la période d'ouverture.
Alors, en introduction, nous parlions du fait que ce centre Couleur Nature avait une vocation d'apprentissage à environnement. Et je sais que vous avez pris des moyens pour être en phase avec vos objectifs de respect de l'environnement. Est-ce que vous pourriez nous préciser lesquels ?
Oui, donc plusieurs. On a du coup petit à petit, hein, parce que c'est compliqué de faire tout d'un coup. Et puis voilà, c'est au fur et à mesure que les années avancent, les enfants évoluent aussi, les personnes, les adhérents, les adultes évoluent aussi. Et du coup, face à une société qui évolue, eh ben, nous aussi, on a le devoir d'évoluer. Et puis les recherches aussi qui nous permettent du coup de faire des évolutions écologiques. Exemple, notre chaudière à bois. Donc on a ouvert cette chaudière il y a un peu moins de 10 ans. Donc à l'époque, nous avions une grande citerne de gaz qui nous chauffait notre eau et qui nous chauffait nous l'hiver, en sachant que nous sommes à 1100 d'altitude. Donc voilà, en plein hiver, on a besoin d'être bien chauffé. Donc on a décidé de passer en chaudière bois. Cette chaudière a été remboursée dans les 4 ans et du coup depuis, par rapport à l'époque, niveau économique, on y gagne bien. Voilà, on a un gros silo, du coup, enfin, c'est un système de fils sans fin qui permet d'alimenter petit à petit la chaudière et de chauffer l'ensemble du bâtiment. Ensuite, d'autres côtés qui sont particuliers à notre centre, c'est notre épuration des eaux. On a décidé, lors de notre rénovation en 98, de passer en système autonome d'épuration des eaux, donc pour épurer nos eaux usées. Donc on a construit un champ d'épandage en 3 pans qui permet, grâce à de la pierre pouzzolane, d'épurer notre eau. Donc les déchets sont récupérés dans une première fosse. Les eaux vont ensuite dans une deuxième où il y a la pouzzolane qui récolte, du coup, qui sert un peu d'éponge, donc qui récupère les morceaux sur ces pierres. Et ensuite, une troisième cuve qui permet de faire tomber l'eau, du coup, dans le grand champ d'épandage qui se trouve juste après. C'est un système qui marche très bien. On nettoie les pierres pouzzolanes et tous les 2-3 ans, puis on les change tous les 9 ans. Parce que du coup, une fois que la pierre n'est plus perméable, du coup, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, pour que le système marche bien, il faut bien qu'elle soit perméable, cette pierre. C'est une manière, du coup, de protéger notre buèche qui passe à une dizaine de mètres de notre maison. Parce que du coup, cette eau s'épure ensuite dans les champs et retourne vers la rivière. Et donc, on a fait les contrôles il y a quelques années à 1 km au pont de la Jarjatte. Le contrôle avait été fait là-bas. Et du coup, les eaux sont nickel.
Et ensuite, les pierres de pouzzolane qui ont servi à purifier l'eau pendant 3 fois 3 ans sont rejetées dans la nature et elles sont chargées en particulier mon propre.
Non, elles ne sont pas rejetées dans la nature. On les amène à une déchetterie et du coup, ils s'en chargent. C'est un peu comme notre bac à graisse. On se les fait vider hier. Et du coup, il amène dans un espace de traitement exprès pour les graisses. Ils ont du coup la mission de recycler cette graisse et voilà, c'est un peu dans le même principe. Du coup, un troisième point un gros travail par rapport à nos projets, c'est tout le côté alimentation, donc tout le côté alimentaire. On a du coup 2 cuisiniers qui travaillent à plein temps dans nos cuisines, qui reçoivent des denrées alimentaires brutes. Et du coup, qui travaille tout ça, voilà, on n'achète rien de déjà préparé, déjà cuisiné. Tout est donc fait et cuisiné à la maison, dans nos grandes cuisines de collectivité. Le principe étant de faire découvrir aux enfants et aux adultes, et en fait à tous les adhérents qui viennent nous voir, des nouvelles des saveurs, des nouvelles expériences au niveau alimentaire et culinaire. Ça marche très très bien. Tous les enseignants qui s'en vont d'ici et tous les adultes et les enfants en disant que voilà, ils ont passé un très bon moment en passant de notre salle de restauration, dans le sens où voilà, on joue vraiment avec cette nourriture en faisant des plats bien présentés, en jouant du coup avec des épices, en faisant découvrir du coup des petites graines, qu'on met par exemple des graines de tournesol dans une salade, et ben ça change un goût, ça change de saveur, et puis c'est au niveau alimentaire, voilà, on en travaille beaucoup là-dessus.
Et les produits alimentaires que vous achetez de manière brute viennent souvent d'ici ou...
Un petit peu du coin. Par exemple, on a une fromagerie avec des vaches qui sont tout autour de notre centre qui transforment leur lait en fromage. Et donc, du coup, on achète assez souvent chez eux. Au niveau de la viande, on a aussi de la viande parfois qui vient d'un éleveur qui se trouve aussi à la Jarjatte, pareil, qui fait du bourguignon bio. Il est labellisé AB. Notre pain est du pain issu de farine biologique qui vient de la Forie, donc c'est à 20 minutes de nous, donc c'est vraiment un boulanger local. Les légumes qu'on achète ne sont pas forcément biologiques, parce que bon, on a aussi des obligations budgétaires qui ne font que pour l'instant on ne peut pas faire ça, mais il y a des projets. On essaie de travailler avec des associations qui se trouvent dans le Diois et qui voudraient venir jusqu'à chez nous pour partager un peu ces productions qui sont faites dans le coin. C'est en cours, c'est en projet. Et puis on travaille beaucoup là-dessus, quoi.
Donc en fait, c'est pas 100% bio, mais ce serait un de vos objectifs.
C'est un de nos objectifs. Après, le label AB n'est pas forcément un de nos objectifs. C'est la production naturelle, sans produits chimiques et sans pesticides dans notre aliment. Ça, c'est notre objectif. Après, il y a des producteurs qu'on connaît qui sont du coin, qui ne sont pas labellisés AB, agriculture biologique, parce que c'est un label qui coûte cher et qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Par contre, on sait très bien qu'ils produisent de l'alimentation qui est saine.
Alors, vous avez dit qu'en 1998, le bâtiment avait été remise au goût du jour, et puis il y avait des extensions, etc. Et je vois en face de moi une vitre qui semblerait être double vitrage. Vous en avez profité pour réisoler, pour faire en sorte que ce bâtiment consomme le moins possible d'énergie ou...
On a essayé de faire ça un maximum. Donc le réseau d'eau qui chauffe notre bâtiment ou qui amène l'eau chaude dans le bâtiment a été conçu pour limiter les déperditions d'énergie. Tous nos vitres sont en double vitrage. Il y a des déperditions encore, il y a quelques endroits où il faut encore qu'on travaille dessus. Par exemple, on a un préfabriqué, on a le projet de le rénover là dans les 3 ans, donc en fait de le déconstruire, de le reconstruire, parce qu'au niveau isolation, il est vraiment pas bon du tout. Donc voilà, c'est un bâtiment qu'on prête au foyer de ski de fond pendant tout l'hiver, donc qui est chauffé. Et donc voilà, c'est un travail, un de nos prochains travails pour l'avenir.
Est-ce que vous avez mené d'autres actions pour vous mettre en adéquation avec votre envie de respecter la nature ?
Des projets, on en a beaucoup. Après, la gestion de ce centre, du coup, nous prend beaucoup de temps. Notre premier projet, c'est d'accueillir les personnes comme il se doit. Et ensuite, petit à petit, donc, on a des projets pour améliorer notre impact sur l'environnement et que notre empreinte écologique soit la moins lourde possible. Ensuite, une des petites évolutions qu'il a eues il n'y a pas très longtemps, on a mis en place un système pour chauffer notre piscine grâce au solaire. Donc c'est une sorte de panneau solaire, c'est un panneau solaire qui lance une pompe et qui fait passer l'eau dans des tuyaux noirs. Donc voilà, vu qu'il fait beau, ces jours-là, ça donne de l'eau bien prenante. Donc c'est un système de chauffage de piscine écologique, sans énergie électrique.
Tout à l'heure, tu as un petit peu répondu, mais vous n'avez pas envie d'être spécifiquement bio parce que c'est les labels qui sont trop chers ou que c'est trop compliqué, ou quelle est votre position vis-à-vis du 100% bio et de se faire labelliser ?
Le label AB est une assurance par rapport à ce que l'on mange. Donc ça veut dire que derrière ce label, il y a eu des personnes qui sont venues inspecter les champs de ces paysans. Ils sont venus voir leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils utilisent comme produit pour soigner leurs bêtes, pour faire pousser leur foin dans les champs. Voilà. Seulement, du coup, tout ce qui est labellisé est a priori plus cher actuellement. Donc nous, toujours pour des causes économiques et de gestion de l'ensemble du centre, on ne peut pas actuellement acheter des légumes bio, labellisés AB. C'est pour l'instant pas possible. Après, on espère que ce système est chouette, mais coûte trop cher. Ceci dit, il y a des possibilités. Du coup, on a des producteurs plutôt locaux et qu'on connaît, du coup, qui sont, du coup, c'est l'avantage du local, hein, c'est qu'on connaît les gens, on sait comment ils travaillent et ça reste de la nourriture naturelle, qui n'est pas forcément labellisée, mais qui est naturelle. Ceci dit, on fait un effort actuellement sur tous les produits d'entretien du centre, donc lessive, produits pour le sol, produits pour les toilettes, produits pour laver la cuisine, tout ça est labellisé européen. Ça, on a réussi à dégager des fonds, pas pour ça, parce que ça nous paraît important, et aussi par rapport au champ d'épandage, que si on balance des produits chimiques qui explosent notre champ d'épandage qui est à base naturelle, ça ne servirait plus à rien.
Et au niveau du recyclage de vos déchets, est-ce que vous faites un effort particulier ? Est-ce que vous avez des bacs de séparés différents ?
Nous avons une déchetterie du coup sur le centre. Donc tous les 15 jours, il y a notre personnel de service qui amène du coup les verres, les produits plastiques et puis papier à la déchetterie de Luce Lacroix. Voilà, et tout ce qui est déchets alimentaires, donc tout ce qui reste au niveau alimentation, donc épluchures comme aussi des retours de sel, vont dans une ferme. C'est une fermière qui vient pour récupérer toute cette alimentation pour nourrir ses bêtes. Donc ça, au niveau de nos poubelles, elles sont de moins en moins lourdes.
Dernière question avant de vous quitter, Vincent Marquet. Quel serait le futur pour Couleur Nature ? Comment vous voyez l'avenir un petit peu ? Est-ce que vous avez des projets particuliers ?
Des projets, on a beaucoup de projets. Hein. Ça, c'est en étant si permanent dans le centre et puis des animateurs nature qui reviennent nous voir très souvent. Du coup, il y a beaucoup de partage au niveau des idées, des évolutions pour qu'encore une fois notre empreinte soit la moins sévère possible. On a un gros travail à faire actuellement. C'est qu'on fait beaucoup d'efforts sur plein de domaines, comme que je vous disais, de l'alimentation, comme les produits d'entretien, comme on utilise du papier recyclé à 100% au niveau de notre bureau. Et tout ceci, il y a les adhérents qui viennent nous voir, ne le savent pas forcément. Donc voilà, par exemple, quand on sert du fromage de notre ferme locale, eh ben, on intervient pendant le repas pour expliquer que c'est un fromage qui vient du coin, voilà, qui est fait par notre fermier local. Et voilà, mais n'empêche qu'on pourrait encore plus sensibiliser les gens à notre travail pour que ça leur donne envie de continuer ce travail chez eux, au milieu des villes et, ou des campagnes, selon d'où ils viennent. Et voilà, on a envie que tout ça donne envie, c'est possible, ça coûte pas si cher que ça en fait. Hein. Et moi j'ai envie de finir sur une chose, au niveau alimentaire, dans les écoles, beaucoup d'écoles sont alimentées par des grosses entreprises d'alimentation que je ne tairai pas forcément le nom, qui sont Sodexo et Scolarest, et puis il y en a d'autres, hein, qui amènent des produits tout près dans des packs plastiques, qui sont réchauffés par des cantinières et qui sont servis du coup à nos enfants. Au niveau de l'éducation au goût, je pense qu'on perd tout. Il y a, au niveau du goût, c'est de l'alimentation qui n'est pas du tout saine et pas du tout convenable, je pense, pour, au niveau éducation alimentaire, hein, pour nos jeunes enfants. Et je sais que nous, à chaque fois que des enseignants partent d'ici, ils ne reviennent pas de ce que des enfants mangent ici. Les enfants mangent, des enseignants ouvrent des grands yeux en disant oh, « Mais les enfants, en fait, ils mangent !» Alors qu'à leur cantine, ben, ils ne mangent pas. Et du coup, ça ne coûte pas si cher que ça. Il suffit juste d'avoir deux cuisiniers. Et puis une logique où, par exemple, un mot que je n'ai pas employé, c'est là au niveau de la viande. On ne sert pas la viande à tous les repas. Et il y a tout plein d'autres alimentations au niveau protéines végétales qui existent, qui remplacent cette viande qu'on dirait que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il faut en manger tout le temps. En fait, si on sort un repas sans viande, c'est un repas qui, où il manque quelque chose, alors que c'est pas du tout vrai. Et il y a encore les années 1910, les personnes mangeaient une fois de la viande toutes les semaines, quoi. Et encore. Et puis, ils se portaient pas si mal que ça. Hein. Par contre, ils mangeaient beaucoup de blé, beaucoup plus de blé. Et voilà, enfin, c'est toute une logique alimentaire qu'on a récupérée depuis la fin de la guerre. Enfin, peut-être que je vais un peu loin, mais... du coup, voilà, c'est une logique alimentaire que l'on a dans notre pays civilisé, mais n'empêche que la viande que l'on mange, que l'on trouve pas chère à l'heure d'aujourd'hui, c'est de la viande qui est élevée dans des, qui n'ont pas forcément vu le jour, qui sont élevées dans des conditions lamentables et qui mangent du coup des graines dégueulasses et voilà.
Voilà. On n'en dira pas plus aujourd'hui, hein, parce qu'on ne veut pas, en parlant du loup, l'alimenter. On n'a pas parlé du loup, puisqu'il n'est pas si loin que ça. Ouais. Monsieur Marquier, merci d'avoir répondu à nos questions. Longue vie à Couleur Nature et continuez à faire partager aux jeunes générations le goût de la nature et le respect de la nature.
Je vous remercie.
Merci.
Biotop. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Je suis en conversation téléphonique avec monsieur Bernard Brun, agriculteur à Montmorandiwa, qui a eu l'occasion, il y a 6 ans, d'installer une chaudière bois déchiqueté. Monsieur Brun, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, est-ce que vous pouvez préciser quel est votre domaine d'activité en agriculture ?
Écoutez, moi je suis installé sur la commune de Montlaur et mon secteur c'est principalement la vigne, le noyer et un peu la grande culture, voilà, le tout en bio depuis une douzaine d'années.
Et donc, il y a 6 ans, vous avez éprouvé la nécessité d'investir dans une chaudière bois déchiqueté. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, on avait réfléchi avec mon frère il y a 6 ans pour installer cette chaudière, sachant qu'on avait du bois sur l'exploitation. Donc, j'ai des noyers que l'on taille régulièrement. Donc, on avait du bois sur l'exploitation, des haies. Moi, je me chauffais au gaz. Ma mère se chauffait au fioul. Donc, voilà, la hausse du coût de l'énergie. On a réfléchi à un projet avec une chaudière à bois déchiqueté. C'est une Argasner de 55 kg qui est en route depuis janvier 2008. L'installation sert à chauffer le hameau. Il y a 3 maisons, donc la maison de ma mère, de mon frère et de ma famille. Voilà.
Est-ce que vous vous rappelez combien elle vous a coûté cette installation ?
Alors le coût de l'installation totale, moi j'ai participé un peu aux travaux, essentiellement de béton, ça nous a coûté aux alentours de 45 000 euros TTC.
Y a-t-il eu des soucis particuliers dans l'installation et puis peut-être après dans le fonctionnement ?
Dans l'installation, non, ça s'est bien passé. Alors c'est vrai qu'il a fallu réfléchir un peu où est-ce qu'on allait mettre les silos, parce qu'on est dans un vieux corps de ferme, donc c'est pas forcément très simple. Mais non, pas de soucis particuliers.
Au point de vue fonctionnement, une chaudière à bois déchiqueté se contente d'avaler du bois déchiqueté et de produire de la chaleur sans aucun souci.
Voilà, c'est le but, oui. On fait de l'eau chaude l'hiver pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. L'été, depuis cette année, on arrête la chaudière, là, parce que moi, en fait, j'ai une installation de panneaux noyer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise le broyage des branches de noyer de taille. Avant, c'était du bois qui, bien souvent, partait en fumée. On les brûlait au champ. Aujourd'hui, c'est un très bon moyen de les récupérer. Alors, c'est sûr que ça ne nous fournit pas tout le bois nécessaire pour l'installation, mais ça va nous fournir 40 à 50% de la nécessité en bois. Et puis le reste, ça va être des bordures, du pain qui avant n'était pas valorisé. Pour le moment, on est autosuffisant en bois. Ça va peut-être pas durer parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de forêt, mais pour le moment, on est autosuffisant. Donc voilà, tout va bien. On passe une centaine de mètres cubes de bois déchiqueté par an pour l'installation.
Pour trois maisons. Et si vous deviez comparer avec votre ancienne chaudière, combien économisez-vous sur votre facture de chauffage et d'eau chaude?
Ouais, alors ça c'est difficile à dire parce que moi j'avais une chaudière gaz, ma mère avait une chaudière fioul, nous on avait également un poêle à bûche, mon frère et sa maison n'étaient pas encore chauffés, donc en termes d'économie c'est pas facile à dire, on se chauffait aussi pas de la même manière, c'est-à-dire on se chauffait sans doute un petit peu moins. L'économie est difficile à dire. Bon, une chose est sûre, c'est que le bois déchiqueté coûte trois fois moins cher à énergie équivalente. On est à peu près dans les 27 euros hors taxe le mètre cube. Il faut un mètre cube pour faire 100 litres de fioul et le fioul est à peu près à 80 euros hors taxe les 100 litres. Donc voilà, grosso modo, trois fois moins cher, quoi.
Bernard Brun, est-ce que vous accepteriez de donner votre numéro de téléphone si des gens étaient intéressés par votre expérience pour installer chez eux une chaudière à bois déchiqueté?
Mais oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on peut me joindre sur mon portable 06 30 60 77 01.
Monsieur Brun, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir.
De rien, bonne journée, au revoir.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Un programme soutenu par BioValley.